Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Marc avec le frère Dominique Collin. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux pour mener avec le frère Dominique Collin une lecture cursive de l'Évangile de Marc. Aujourd'hui, quatrième émission, nous venons d'entendre Jésus annoncer que le royaume, c'est pour maintenant. Et nous allons le voir agir tout au long du reste du premier chapitre. Et puis, très rapidement, au deuxième chapitre, nous verrons toute une série de crispations et d'oppositions. Dès le début, Jésus montre qui est Dieu, et puis il montre aussi à quel point il annonce un Dieu étonnant. Voilà, nous souhaitons, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous souhaitons avant tout que vous puissiez trouver dans ces causeries une correspondance entre ce que vous vivez et ce que vous lisez et entendez de la trace de cet homme, Jésus. Voilà, frère Dominique, bonjour.
Bonjour, Pierre-Paul.
Eh bien voilà, nous entrons vraiment dans un passage important du premier chapitre où Jésus va se montrer tel qu'il est, il va agir véritablement. Ce n'est pas un évangile de discours, c'est un
tout à fait, oui.
D'action.
Oui, il montre que le royaume de Dieu s'inscrit donc dans des gestes signifiants, donc des signes de la présence du royaume, qui donc dans son mystère d'intériorité se révèle. Il y a une révélation progressive et dans une trame tout à fait humaine en plus. C'est ça qui est magnifique, c'est que l'évangile ne montre pas la manifestation du royaume dans des actes exceptionnels et encore moins pour des êtres illustres, comme on pouvait les appeler déjà dans l'Antiquité. Donc ce ne sont pas pour les chefs, ce ne sont pas pour les rois, les empereurs, c'est pour les petites gens. Les petites gens, c'est le milieu privilégié ou le royaume, et on essaiera peut-être de comprendre petit à petit pourquoi c'est dans ces catégories sociales, mais qui disent aussi quelque chose, on l'a déjà évoqué avec la notion de manque et de pauvreté, pourquoi ce sont chez ces personnes qui n'ont pas cette logique de plus d'avoir, de pouvoir et de paraître que justement se révèle le royaume des cieux.
Alors nous allons vivre l'appel des quatre pêcheurs, et je vais lire ce texte-là, mais il y a deux mots-clés, certainement. Il vit. Et puis, il y a un mot que vous avez déjà signalé, frère Dominique, c'est « aussitôt ». Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite.
Ce qu'on peut relever d'abord, et c'est important, dès l'entame finalement de cet évangile, c'est que Jésus n'est pas dans une mission solo. Il ne fait pas carrière tout seul, parce que le royaume de Dieu, et j'aime la manière dont Lita Basset, donc cette théologienne suisse et auteur spirituel à succès, comme on le sait, elle traduit le royaume par le relationnel de Dieu. Donc la manière dont Dieu agit, c'est toujours pour ce que philosophiquement je vais appeler une ontologie de relation. Donc Dieu est comme lien et Dieu est liant et reliant en fait. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Dès que donc il y a fraternité humaine en train de se constituer, dès qu'il y a émergence donc de cette fraternité, il y a un signe majeur du royaume. Et donc Jésus ne fait pas sa carrière seul, tout son parcours et son cheminement va être accompagné et suivi par des disciples qu'il a lui-même choisis. Il y a ce regard porté, vous l'avez souligné, sur Simon et André, donc il y a un regard qui appelle. C'est important de reconnaître que le don, ce qui nous est donné par le Père, donc cette parole de bienveillance qui s'adresse à nous par le Fils, en disant « tu es mon Fils bien-aimé », est en même temps un appel, une responsabilité. Quand je suis appelé, reconnu en vérité, eh bien je me sens permis, en fait, libéré de faire, c'est-à-dire d'être, d'agir, d'œuvrer. Et c'est toujours cette dynamique ou cette dialectique que nous allons retrouver dans l'Évangile. Être appelé, être d'une certaine manière reconnue dans sa justesse et sa vérité, c'est une capacité donc ensuite à répondre. Et il est important donc pour Jésus de voir comment des hommes et des femmes, puisque nous parlerons aussi de femmes, Marc le souligne aussi, Jésus était entouré par de nombreuses femmes, des hommes et des femmes donc se mettent à le suivre. Le deuxième trait que je voudrais souligner dans ce passage, c'est que Jésus réoriente, si l'on veut, directement leur travail quotidien. Ils sont donc pêcheurs, comme il y en avait beaucoup donc sur le bord du lac de Tibériade, où nous sommes, et qui sera le parcours de l'activité du déplacement de Jésus dans l'évangile de Marc. Je tiens aussi à rappeler quelque chose qui, à la différence, par exemple, de Jean, c'est que Jésus ne va qu'une fois à Jérusalem dans l'évangile de Marc. Et il y va fatalement, c'est-à-dire que la première, c'est aussi la dernière fois, puisqu'il y sera arrêté et condamné pour être crucifié. Donc tout le déplacement ou les déplacements de Jésus se font principalement en Galilée, avec comme centre névralgique, base de repli et de départ aussi, donc la bourgade de Capharnaüm, bourgade qui est essentiellement une bourgade de pêcheurs. Alors Jésus, donc, à Simon et André, leur dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». On ne souligne pas assez que Jésus leur donne une mission qui est une réorientation de leur travail. On a parfois une idée de la vocation, et c'est aussi peut-être comme ça qu'elle a été vécue pendant de longs siècles dans l'Église, où l'on prend des gens et on les sort de tout leur contexte familial, de leur contexte économique et social, pour les mettre tout à fait à l'écart, parfois à l'abri, ou en tout cas pour faire un tout autre travail. Ici, Jésus a l'air plutôt de dire, eh bien, votre génie propre, c'est-à-dire votre talent, votre travail, votre profession, elle servira maintenant à pêcher des hommes. Alors ça reste une énigme à nouveau. Les pêcheurs ont juste comme idée, c'est que le fait de prendre des poissons, les retirer de l'eau, la mer est un lieu qui pour les juifs représente le monde du mal, c'est-à-dire le monde du tohu-bohu, du chaos, de l'opacité sans fond avec les monstres marins. Nous reviendrons à de nombreuses reprises sur le thème et la figure de la mer dans l'évangile de Marc. Mais déjà donc, il y a quelque chose de signifiant qui s'opère là, ou qui s'inaugure. Retirer les poissons de la mer, c'est les retirer donc de ce lieu du mal, comme ils le feront peut-être pour des humains. Donc ce n'est pas pour les empêcher de vivre, puisque dans la figure ou la symbolique de retirer des hommes de la mer en les pêchant, c'est les extraire, les retirer du monde du mal, du monde du chaos. Voilà déjà signifié donc l'opération du royaume, c'est de sauver.
Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'élan profond, l'élan premier de l'être humain, ici des pêcheurs, n'est pas nié par Dieu, réorienté comme vous dites, mais jamais nié. Et notre élan, nos désirs ne sont pas niés par
Tout
Dieu.
À fait, c'est très juste et ça me paraît peut-être très, très urgent et d'une actualité profonde de redécouvrir que l'appel du royaume ne constitue pas les chrétiens comme une sorte de secte à part ou de caste, mais replonge, c'est le cas de le dire, chacun dans le lieu où il est humain, c'est-à-dire constitué par ses relations quotidiennes comme être humain, mais c'est pour y apporter, j'allais dire, ce plus ou cette plus-value, cette signifiance particulière qu'est le royaume, en étant là où on est et en vivant toutes les réalités temporelles qui sont les nôtres.
Alors il y a aussi par deux fois ce mot « aussitôt », c'est fulgurant. Ce Jésus est-il une sorte de séducteur ?
Alors il y a probablement de la séduction, encore faut-il donc entendre la séduction comme un attrait, et si le royaume n'a pas d'attrait, si la parole de Jésus, et on le verra immédiatement dans la synagogue de Capharnaüm, dans le récit qui va suivre, les gens sont frappés d'étonnement, donc il y avait du charisme, on pourrait dire que Jésus était probablement à tout le moins un individu charismatique. La séduction s'est amenée à soi. Ici, la suite de Jésus va se révéler beaucoup plus ambivalente et en tout cas, il ne s'agira pas de suivre Jésus lui-même et de suivre le chemin du royaume que Jésus emprunte. Et ça, les disciples vont voir que leur maître, au lieu d'être un séducteur qui facilite, j'allais dire, cette imitation ou cette suite, va justement en montrer les aspérités, les écueils et que nos braves disciples vont avoir beaucoup de difficultés à suivre cet homme-là.
Nous verrons d'ailleurs que souvent Jésus se relie au Père, justement. Et pour...
Tout à fait. C'est important de rappeler que dans l'évangile de Marc, Jésus ne renvoie toujours à un autre que lui, qui est Dieu comme Père. D'ailleurs, il ne se prend, si vous me passez l'expression, Jésus dans l'évangile de Marc ne se prend jamais pour Dieu, il renvoie à un autre. Et c'est exactement cette notion ou cette thématique de filialité que nous avons déjà esquissée la fois dernière ou l'émission précédente.
Nous allons alors maintenant vivre cette grande scène dans la synagogue de Capharnaüm. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria « De quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Une scène tout à fait décisive.
Tout à fait, on peut encore l'appeler une scène inaugurale en tout cas de l'activité de Jésus et donc des premiers signes qui éclatent de la présence effective et donc agissante du royaume. Nous sommes donc à Capharnaüm, c'est la ville de pêcheurs et le jour du sabbat, nous verrons son importance. Ici c'est juste pour situer la circonstance d'un rassemblement qui est hebdomadaire, c'est-à-dire le culte qui est rendu dans une synagogue. Rappelons qu'à l'époque de Jésus, donc lors de ce qu'on appelle le judaïsme du 1er siècle, il n'y a qu'un lieu où l'on pratique des sacrifices, c'est-à-dire où il y a un culte, et c'est le temple à Jérusalem. Mais toutes les bourgades, les villages de Galilée, de Palestine, mais également de la diaspora juive sur le pourtour méditerranéen, avaient une synagogue, qui est en fait une maison toute simple, où le jour du sabbat, essentiellement, on écoute proclamer donc les prophètes et les textes du Pentateuch. Ils sont commentés, donc il y a une sorte d'homélie. Alors Jésus est donc dans cette synagogue, et souvent le chef de synagogue permettait à quelqu'un, un mâle de l'assemblée, de pouvoir enseigner. C'est ce que Jésus fait. Alors, il y a plusieurs choses frappantes. C'est que c'est le premier enseignement de Jésus dans l'évangile de Marc. Jusque-là, on nous a dit que Jésus proclamait. Là, il enseigne. Donc on a l'impression que c'est un discours plus long, et qui probablement montre ce que signifie cette arrivée du royaume. Après la proclamation initiale, qui est finalement le chapeau, il faut remplir par la parole pour montrer comment ce royaume est en train d'advenir pour les auditeurs. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que Marc ne nous donne pas le contenu de cet enseignement. Donc notre curiosité, on est laissé pour ses frais, puisque nous ne savons pas précisément ce que Jésus disait dans cette synagogue ce jour-là. Parce que Marc va noter non pas le contenu de l'enseignement, mais les effets sur ce que j'appelle le contenant, c'est-à-dire les auditeurs. Si je reprends cette formule qui me vient d'un auteur qui s'appelle Bruno Latour, dans un petit livre tout à fait formidable qui s'appelle « Jubilé ou les tourments de la parole religieuse », il montre que la parole religieuse, elle ne cherche pas d'abord à communiquer des contenus, mais à transformer des contenants, c'est-à-dire les êtres humains qui la reçoivent. Et ce sont précisément donc les effets de parole que Marc note en disant que l'assemblée est frappée, donc il y a une stupeur, il y a un étonnement, il y a quelque chose d'inédit qui se passe ou d'inouï, littéralement, parce qu'il constate que cet homme enseigne en homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Donc déjà, ils font une distinction, une sorte de discernement entre la parole des scribes. Alors donc les scribes, ce sont les théologiens, on va dire, les théologiens du temple, les théologiens du judaïsme, qui recopient les textes de la loi de Moïse, etc., qui aussi la commentent. Donc j'appelle ça des théologiens pour prendre un parallélisme et une analogie qui n'est pas totalement forcée avec ce que sont les théologiens encore aujourd'hui.
Des connaisseurs, en quelque sorte.
Des connaisseurs, oui, des savants, des connaisseurs. Ils savent. Ils savent, mais visiblement, leur savoir est un peu anémié, il n'a pas la force de quoi ? La force de la parole du changement, parce que ce qu'on va découvrir petit à petit grâce à l'évangile de Marc, c'est que évangile, evangelion, cette parole d'encouragement, cette heureuse annonce, c'est une parole de changement. Que la Bible ne parle que le langage du changement. Or, malheureusement, dans toute religion, à un moment donné, il y a une sclérose de cette parole de changement qui devient la parole de savoir, de connaissance, hein, qui se part d'une objectivité soi-disant scientifique, qui devient générale, abstraite, et qui, à force donc de ne s'adresser à personne, perd complètement de ses effets de transformation sur l'auditeur.
D'autant plus qu'à ce moment-là, cette parole devient un instrument de pouvoir. Nous allons, nous allons faire une petite pause musicale et nous allons revenir d'ailleurs sur ce thème-là juste après la pause. Nous écoutons l'arpeggiata. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Marc avec le frère Dominique Collin et Pierre-Paul Delvaux. Nous sommes dans le chapitre 1, dans cette synagogue où Jésus enseigne, mais il enseigne avec autorité. Frère Dominique.
En tout cas, c'est ainsi que donc, les auditeurs perçoivent son enseignement, donc cette qualité de parole, avec autorité. Qu'est-ce que ça signifie, d'autant plus que le mot autorité peut faire peur aujourd'hui, puisqu'il peut avoir un sens de quelqu'un qui a un pouvoir sur. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité est un pouvoir pour, c'est-à-dire une capacité par une attitude, évidemment, un comportement et une parole, quand on est enseignant, de susciter chez quelqu'un une disposition, j'allais dire même à faire la vérité plutôt que d'apprendre la vérité. De sorte que le véritable enseignant a une autorité pour faire grandir, vous le savez, donc... En latin, augere, augere, auctoritas, c'est faire grandir. Donc c'est permettre à quelqu'un de découvrir peut-être à la fois des ressources qu'il ne soupçonnait pas. Donc ça c'est l'aspect un peu maïotique à la Socrate, donc de permettre à quelqu'un aussi de découvrir ce qu'il a en lui, mais surtout c'est lui permettre un chemin de croissance. Et donc Jésus avait des paroles qui visiblement étaient reçues comme avec cet effet ou cette puissance de faire grandir, contrairement à celle des scribes qui peut-être était une langue anémiée et qui aplatissait en tout cas la parole et sa puissance. Donc c'est cet effet que Marc note et nous reverrons que c'est l'effet de l'évangile aussi pour celui qui le lit, c'est-à-dire que le lecteur est invité à découvrir ce texte comme n'étant pas d'abord un ensemble de références, c'est-à-dire de savoir et de connaissances, ni sur le monde biblique de l'époque, ni sur l'histoire, ni même sur la biographie de Jésus de Nazareth, mais comme une puissance de parole impliquante et interpellante qui a une capacité d'adresse, encore faut-il la lire et l'accueillir dans cette optique-là. Si je cherche seulement à enrichir une sorte d'érudition savante, tout à fait appréciable par ailleurs et utile pour ceux dont c'est la tâche ou les compétences, mais pour celui qui désire vivre, et j'allais dire vivre pleinement sa vie, le texte d'évangile est capable de lui montrer des chemins insoupçonnés, c'est-à-dire il y a une puissance de transformation et de changement. Et je crois que c'est la difficulté qui fut celle pendant longtemps de montrer que la parole n'est pas pour fournir une sorte de catéchisme qui constitue une sorte de recueil facilement mémorisables de questions et de réponses, mais ce sont chaque fois des paroles interpellantes et parlantes pour celui qui les écoute.
Frère Dominique, quel soulagement pour beaucoup, et notamment pour les gens de ma génération. Souvent, la parole a été écrasante et non pas libérante, reliante, ou comme vous êtes en train de le développer
tout
pour le
fait.
Moment. Et d'ailleurs, dans la suite du texte, va confirmer cela. C'est l'altercation, en quelque sorte, le dialogue entre Jésus et un possédé.
Eh bien, que la parole soit interpellante et impliquante, ça signifie que les effets peuvent être des effets de type positif, c'est-à-dire de l'étonnement, il parle avec autorité, ça nous fait grandir, mais il faut aussi reconnaître à la parole qui parle une implication et une possibilité de faire aussi émerger des réactions négatives, de rejet, de peur. Puisque donc l'Évangile faisant la vérité sur notre vie humaine en révèle à la fois, j'allais dire, les profondes ressources et énergies qui nous permettent de grandir, mais peut aussi, comme un médecin, révéler les pathologies, c'est-à-dire les empêchements, les paralysies, tout ce qui vient, nos illusions, nos faux fuyants. Et ça aussi, c'est l'effet de l'Évangile. Et c'est un effet auquel peu semble vouloir s'y prêter, parce qu'il y a là un effet révélateur de choses que, bien souvent, on ne veut pas voir en soi-même. Et le fait donc que dans cette assemblée, s'il faut noter que cet homme était présent au même titre que tous les autres, et je ne crois pas, le texte ne le précise pas, mais je ne crois pas qu'on doive penser que cet homme est arrivé avec des manifestations, de possession pour faire bref. C'est l'effet même de la parole qui, chez un auditeur, a révélé peut-être ce chaos de forces contraires, c'est-à-dire de puissances néfastes qui se retournent contre lui. Et là, on arrive donc devant le premier cas dans l'évangile de Marc, et il y en aura bien d'autres, de ce qu'on appelle donc un homme possédé d'un esprit impur. Bon. Aujourd'hui, évidemment, avec notre mentalité moderne, post-scientifique, nous sommes moins amenés à croire qu'il y a des cas de possession. D'autant plus qu'une certaine imagerie venant parfois des films nous fait voir, comme dans L'Exorciste, des cas de possession diaboliques où les effets spéciaux, évidemment, en rajoutent. Ici, dans l'évangile de Marc, comme dans tous les évangiles d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que, n'ayant pas les connaissances scientifiques ni psychologiques d'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes de l'époque voyaient des hommes et des femmes qui étaient tourmentés dans leur corps et dans leur esprit. Et tourmenté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui semble venir d'une force étrangère et néfaste. Et on traduit ça par l'expression « un homme qui est pris par un esprit impur », c'est-à-dire par une cause que l'on ne peut pas découvrir, qu'on ne peut pas expliciter, qu'on ne peut pas justifier, mais qui cause une sorte de dégradation profonde, de maladie et de troubles du comportement. Donc ce sont des troubles du comportement que Jésus va rencontrer, parce qu'il y a cet effet du royaume fait aussi bouger, si l'on veut, les uns et les autres.
Ça me fait penser à ces spirales de la haine de soi. Je pense que c'est de l'autodestruction, et je pense à ces paroles lumineuses du curé de campagne sous la plume de Bernanos. Il est plus facile qu'on ne croit de se haïr. Et je crois que
tragiquement très très vrai. Et nous redirons cela et nous le reverrons lors du passage au chapitre 5 de l'évangile de Marc, où nous aurons l'homme en esprit impur avec l'histoire des cochons qui se jettent à la mer. Et on verra aussi des signes que Marc relate explicitement d'autodestruction et de cette spirale de violence faite contre soi.
Alors il dit « Je sais qui tu es ».
Vous me permettez, Pierre-Paul, de faire petite précision qui
bien
a son
entendu.
Importance parce qu'on la retrouvera et qui n'est pas évidente parce que seul le grec permet de le savoir, ou plutôt nos traductions ne sont pas tout à fait justes. Donc, si je lis dans la Top, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Le grec dit un homme en esprit impur. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Spatialement, ce n'est pas la même chose. Si je dis un homme possédé d'un esprit impur, ça veut dire qu'il y a un être humain et qu'à l'intérieur de lui est venu se nicher un esprit impur. Si je dis un homme en esprit impur, c'est un homme qui vient se loger dans un esprit impur. Eh bien, le texte ici, en grec, littéralement, a l'air de dire que c'est un homme qui est venu se mettre dans un esprit impur. Alors, comment comprendre ça ? Eh bien, on peut le comprendre par certains comportements de personnes qui préfèrent vivre dans leurs difficultés et leurs problèmes, dans leur pathologie, dans leurs troubles. Je pourrais dire, et je vais prendre un exemple, et il faut le prendre avec les nuances après médicales qu'il faut apporter, et bien entendu sans jugement. Quelqu'un qu'on appelle un alcoolique, évidemment il ingurgite de l'alcool, l'alcool entre en lui, mais on peut dire que cet homme est dans son alcoolisme, c'est-à-dire il y trouve un lieu qui représente, et ça les psychologues et les médecins le savent, un gain. C'est-à-dire que vivre dans cette situation, fût-elle pathologique et détériorant sa vie, ses relations sociales, peut représenter à un moment donné au moins une sécurité. Parce que sortir de son alcoolisme serait retrouver une vie responsable, une vie autonome, et elle peut faire davantage peur que la pathologie ou la situation bloquée dans laquelle on trouve tout de même une sorte donc de sécurité relative. Eh bien, Jésus va rencontrer des hommes, des femmes, des individus qui ont un intérêt, si vous voulez, à loger dans leur esprit impur.
Au fond, c'est comme si cette personne s'enfermait elle-même avec la clé à l'intérieur.
C'est voilà. Exactement ça. Oui, voilà. L'image est très juste.
Nous allons déjà devoir nous quitter pour aujourd'hui. Alors nous nous quittons encore une fois avec l'arpeggiata. Merci, frère Dominique.
Merci, à bientôt. Bientôt. No.